en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Claude Allègre, grand spécialiste des sciences de la Terre, membre de l'Académie des sciences depuis novembre 1995. Claude Allègre, qui fut ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports de 1997 à 2000. Claude Allègre, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette série L'Essentiel, cette question récurrente posée à tous les invités concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde, leur motivation. Cette question, éventuellement précédée d'une autre, liée à une actualité les concernant directement. En l'occurrence, il s'agit d'un livre publié chez Plon et intitulé « La science et le défi du XXIe siècle ». Dans cet ouvrage, vous réalisez, Claude Allègre, une véritable exploration du XXIe siècle sous l'angle de l'évolution scientifique, avant d'aborder, à partir de là, ce qu'il est convenu d'appeler les grands problèmes, entre guillemets, auxquels notre monde futur sera confronté. Prévoir l'avenir, dites-vous, c'est aussi prévoir l'incertain. Cet essai réussit admirablement à affronter cette gageure en évitant toute forme de prophétisme. Claude Allègre, quelle est l'idée essentielle de ce livre ?
L'idée, c'est que je rappelle quelque chose qui est, je crois, connu, c'est que c'est la science qui fait changer le monde. C'est la découverte, sans revenir aux calendes grecques, c'est la découverte de l'électricité et l'utilisation de l'électricité qui a changé totalement le monde. C'est la découverte du transistor et à partir de là, tout l'essor informatique, tout l'essor de l'exploration spatiale qui est issu directement de la découverte du transistor. Donc, c'est, la science fait changer le monde. Vous savez,
à travers l'innovation, hein, dites-vous.
À travers les découvertes nouvelles. Le grand historien anglais Arnold Toynbee a fait un livre entier sur l'histoire du monde, dont l'épine dorsale, c'est ça, c'est de montrer que ce sont les innovations technologiques, ce sont les découvertes qui font changer le monde, et qui, pas seulement sur le plan technologique, sur le plan aussi philosophique. Pensez à au changement radical qui s'est instauré à partir du moment où on a pensé que la Terre n'était pas le centre du monde et que tous les astres et le Soleil tournaient autour et qu'on a compris que la Terre était finalement une planète banale autour d'une étoile banale dans une galaxie banale. C'est un changement philosophique fondamental. Pensez que la découverte de l'ADN, qui établit d'une manière absolue la théorie de l'évolution, est un changement radical, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse modifier le vivant est une idée totalement nouvelle. Personne n'avait jamais envisagé ça. Je rappelais dans un de mes précédents livres que Jacques Monod, l'un des fondateurs de la biologie moléculaire, lorsqu'on lui avait dit « alors est-ce qu'on pourra toucher le génome ?» Il avait dit « non, jamais ». Il avait répondu « jamais ». Et en fait, 4 ans après, on faisait les premières manipulations génétiques. Donc, il faut bien comprendre ça. Alors, derrière ça, derrière l'évolution scientifique, l'innovation qui est la clé de tout encore maintenant, encore au moment où nous vivons, où nous parlons, derrière, il y a l'écume des jours. Et les hommes politiques courent derrière la science sans généralement la comprendre. On le voit aujourd'hui avec ces espèces de terreurs dont on parlera sur le changement climatique ou autre chose. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment les choses pouvaient avancer. Et dans ce livre, c'est un livre ni optimiste ni pessimiste. Le bandeau a marqué « Le futur dépend de vous » parce qu'il y aura des problèmes considérables qui vont se poser. Pour moi, les plus énormes concernent l'interaction entre l'informatique et le cerveau. Il y a des problèmes sur la reproduction. Il y a des problèmes sur l'allongement de la durée de la vie avec tout ce que ça pose. Il y a des problèmes sur la gestion de la planète qui sont considérables. Et par conséquent, il y a des questions essentielles pour l'avenir de l'humanité. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec les problèmes du changement climatique, même on y reviendra si je crois que c'est beaucoup exagéré, néanmoins, elle montre un souci planétaire maintenant qui commence à apparaître. dans les gouvernements du monde. Mais ça, c'est la science qui les a. C'est la science qui les pousse, y compris les pousser dans des mauvais endroits, parce qu'il y a des problèmes qu'on ne traite pas, comme le problème de l'eau, comme des problèmes aussi importants que ça. Voilà. Donc l'idée, c'est celle-là. Et je voulais éviter de jouer les gourous en disant, voilà, ça va être comme ça, il va se passer ceci.
Vous le faites très bien.
Parce que je crois que l'incertitude est là. Et j'apprenais ce matin, par exemple, que les recherches des 6 derniers mois sur les cellules souches adultes, cette fois, sont en train de faire des progrès extraordinaires. Donc on n'aura plus besoin de cellules embryonnaires avec tous les débats religieux que ça la pose. Et que on allait pouvoir s'auto-guérir, c'est-à-dire qu'il y a des cellules souches des gens qui sont atteints de certaines maladies qu'on pourra utiliser pour leur remplacer tel ou tel organe qui est déficient. C'est absolument extraordinaire, c'est sans précédent. Donc je crois qu'on est, moi je ne vais pas dire comme certains, à l'âge de pierre de la science, mais on est dans un stade relativement primitif de la science.
Alors vous dites autre chose, c'est qu'une grande transformation vient du fait que, alors que les sciences de la matière ont dominé le XXe siècle, là, maintenant, nous sommes en plein dans les sciences dans les vies et les sciences de la Terre, et que les problèmes posés sont beaucoup plus graves, nous engagent beaucoup plus profondément.
Oui.
En termes de civilisation.
Sont beaucoup plus graves, absolument. Beaucoup plus graves pour une raison, c'est qu'on s'engage dans le domaine de Dieu. Et il y a des gens qui considèrent qu'on n'a pas le droit. L'opposition fondamentale que vous avez d'un certain nombre de gens contre les OGM, alors qu'il n'y a aucun signe de danger réellement des OGM, mais au fond, c'est le problème de vous toucher à la vie, vous n'avez pas le droit de toucher à la vie. Et donc, on rentre dans ce problème, l'homme veut remplacer Dieu, alors il n'a pas le droit, ou bien certains disent, mais si, il se rapproche de Dieu en apprenant comment Dieu a fabriqué, etc. Et donc, ce problème est un clivage extrêmement important. Imaginez que demain, pour imaginer le tremblement de terre que ce serait si quelqu'un réussit à faire réellement en laboratoire la synthèse de la vie. Et c'est des choses qui peuvent se produire dans les années qui viennent. On peut, à partir de matière inerte, fabriquer de la vie. Bon, ça serait... Toutes les religions sont à revoir, etc. Donc, je crois qu'on est dans une période effectivement formidable. Et en même temps, la science fait peur. Précisément parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire que tant qu'on s'attaquait à la physique, c'était pas très important. Maintenant qu'on touche à la vie, qu'on touche à la planète, qu'on touche à l'équilibre démographique, qu'on touche à tout ça, la tendance est de dire surtout n'avançons pas davantage. Et d'où le sentiment anti-progrès, anti-science, qui est caractérisé par les écologistes militants, qui sont absolument retour aux cavernes. On est contre le nucléaire, on est contre les nanotechnologies, on est contre les OGM, on est contre le téléphone mobile, etc. Donc ça veut dire arrêt du progrès, arrêt de la civilisation.
Claude Alleg, première question récurrente de notre série L'Essentiel. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Oh, je ne sais pas si un moment essentiel et des moments, il y a des pierres blanches qui sont très claires. Moi, pour moi, il y en a deux, parce que ça a changé radicalement ma vie. La première, c'est quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, la lecture d'un livre d'un journaliste qui s'appelait Albert Ducrot, qui est mort maintenant, qui avait écrit un livre, La science à la conquête du passé. Ce livre était extraordinaire, extraordinairement en avance pour son temps. Et ce livre a déterminé mon orientation vers les géosciences, c'est-à-dire vers l'idée d'utiliser les méthodes de la physique pour aller vers le passé. Ça a été quelque chose d'important pour ma vocation. Et puis ensuite, évidemment, la deuxième chose, c'est quand j'ai obtenu le prix Crawford, parce que c'est considéré comme le prix Nobel dans notre science, et évidemment, ça a changé mon statut complètement de scientifique, et même le regard que les autres avaient pour moi. Et donc, ça a été aussi un bouleversement énorme dans ma vie. Le reste, vous savez, la science, c'est une longue patience. Donc, je n'ai pas de grande discontinuité dans des choses. Alors, effectivement, il y a des moments où on a eu la chance, avec mon équipe, de trouver des choses. Bon, tout ça, ça fait partie de la joie de la science.
Vous ne donnez pas dans les éléments essentiels de votre carrière le fait d'avoir été ministre de l'Éducation nationale ? Ou c'est quelque chose, un épiphénomène ou... Parce qu'on a quand même l'impression que la politique, ça vous titille, quoi. Il y a pas...
Non. J'ai été content d'être ministre de l'Éducation nationale. J'ai été fier d'être ministre de l'Éducation nationale parce que je suis d'une famille d'enseignants et c'était quelque chose d'important d'être ministre de l'Éducation nationale. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Mais ça n'a jamais été, la politique n'a jamais été ma détermination première. Et la preuve en est, je suis probablement le seul scientifique qui, ayant été ministre, après son ministère, est revenu dans mon laboratoire et j'ai continué à écrire des articles scientifiques publiés dans les revues de base scientifiques. J'avais l'occasion d'être député, sénateur, ça ne m'a pas intéressé.
Vous aviez été parlementaire européen, quand même.
J'ai été parlementaire européen avant.
Oui, avant d'être ministre.
J'ai été parlementaire européen 6 mois, c'est vrai, mais sans jamais quitter mon laboratoire. Même quand j'étais ministre, pendant que mes collègues allaient dans leur circonscription le vendredi, j'allais moi dans mon laboratoire. Donc j'ai jamais vraiment quitté la science. D'ailleurs, si j'avais quitté la science, j'aurais pas pu
en revenir
parce que la science, c'est comme un pianiste avec ses gammes. Si vous en faites pas un peu tous les jours, vous perdez la technique, vous perdez la machinerie intellectuelle. Donc j'ai jamais quitté la science et je ferai de la science jusqu'à mon dernier jour.
Mais quand même, vous avez publié un livre dont le titre était évocateur, hein, 2002, Changer de politique, changer la politique. Donc il y a quand même eu un moment où vous êtes dit... Je vais me colter.
C'était une série d'articles, en fait.
Le titre est fort, quand même.
Je suis d'une famille républicaine. Et j'ai été éduqué dans l'idée que les citoyens devaient se préoccuper de la marche de la politique. J'ai été, vous le savez peut-être pas, et personne ne le sait, j'ai été à l'origine des premières lois qu'a fait passer Lionel Jospin pour réduire le cumul des mandats. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Je me le suis toujours appliqué. Je considère qu'on doit faire de la politique, tout le monde doit faire de la politique pendant un temps, avec un métier. Je déteste cette idée du métier des hommes politiques qui n'ont pas de métier. Et je considère que c'est, pour moi, même à la limite, c'est très difficile de représenter, d'être représentant d'un pays si on n'a pas une racine d'une corporation. Donc ça, c'est ma philosophie. Donc je suis à la fois très intéressé par la politique, mais c'est pas ma priorité numéro un. Voilà.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Claude Allègre, aujourd'hui, dans votre propre activité, qu'est-ce qui est à vos yeux l'essentiel, justement ?
Actuellement, l'essentiel dans mon activité, en dehors de la poursuite de mes recherches scientifiques, c'est de lutter contre ces mouvements écologistes rétrogrades qui risquent de mettre l'Occident dans une situation de sous-développement, alors que l'Asie se développe à toute vitesse. Et donc, je considère que la première des choses que je fais, c'est de combattre, non pas les thèses, l'écologie. En 90, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Économiser la planète », donc j'ai été un des premiers à dire « attention, il y a des problèmes ». Mais je pense que les problèmes, en tant que scientifique, j'ai toujours raisonné comme ça, on cherche à les résoudre, plus ou moins bien, mais on cherche à les résoudre. On ne prône pas les problèmes écologiques pour revenir aux cavernes, pour arrêter le progrès, pour... vous savez que le parti vert, aujourd'hui, a dans son programme la décroissance. Or, en plus, la décroissance, pour moi, c'est une horreur philosophique, mais c'est aussi une horreur sociale, parce que tout le monde sait que si on n'a pas de croissance, c'est les plus pauvres qui en pâtissent. Donc, mon essentiel, c'est de développer une écologie positive. J'ai été, je crois, l'un de ceux qui a créé le mot, il y a 20 ans, croissance verte. C'est-à-dire, je pense que c'est d'utiliser tous ces problèmes qui se posent, parce que dont il faut quand même appeler les choses par leur nom. La première cause de tous ces problèmes, c'est la démographie mondiale. On est passé de 2 milliards à 6 milliards et demi, on va passer à 8 milliards et demi. Donc la situation, pourquoi il y a des problèmes importants, c'est parce que l'homme pollue, l'homme exploite la terre, l'homme épuise les matières premières, etc. Donc il faut bien replacer les choses dans leur cadre. Mais je crois donc que c'est un devoir des scientifiques.
Donc la tour d'ivoire, par exemple, c'est fini, ça. Ça n'est plus une démarche scientifique. Je remarque d'ailleurs que vous avez écrit 30 livres, c'est le 30e.
Oui. Oui,
vous sentez une obligation de communication, vous.
Absolument. Attendez, ça, c'est un problème. D'abord, je suis professeur, mais en même temps...
Et pas n'importe quel livre.
Oui, mais je considère que c'est un... Moi, j'ai fait un gros effort dans ma vie pour... J'ai écrit un livre, par exemple... avec deux tomes. Pour l'instant, je suis en train de faire le troisième, qui s'appelle « Un peu de science pour tout le monde ». C'est d'essayer de vulgariser la science pour que tout le monde puisse comprendre l'essence. Mais on n'est pas obligé de comprendre toute la machinerie intime, mais on comprend les grands traits. Et donc, oui, je considère que les... Mais c'est un sentiment aujourd'hui qui est largement partagé par beaucoup de scientifiques. Beaucoup de scientifiques font des efforts pour écrire, des livres. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Donc voilà, là, Claude Lévi-Strauss vient de mourir. Il a écrit lui aussi un paquet de listes dans son domaine donné. Mais pas tout à fait, parce qu'il est sorti de beaucoup de son domaine pour parler de politique, de philosophie, de littérature, de structuralisme, etc. Donc je crois qu'il y a, cette idée de communiquer vers le grand public des scientifiques, je crois que c'est quelque chose qui correspond à l'évolution de la société.
Parce que vous pensez, vous, que les sciences progressent beaucoup plus vite que les mentalités et que là, il y a un risque de,
absolument,
d'ignorance, de peur
La peur. C'était... Je vous répondrai tout à l'heure, sans doute, à ce sujet. Oui. La peur, oui.
La peur. Vous disiez donc, ce premier thème, et sans évoquer votre activité scientifique actuelle, mais votre activité scientifique actuelle est quand même très intéressante. Vous travaillez sur la séquestration du carbone, de manière à l'enfouir pour qu'il ne s'assorte pas. Ça, c'est un des grands enjeux quand même aujourd'hui.
Oui, mais enfin, c'est une des activités scientifiques que j'ai. Je vous ai expliqué surtout pourquoi c'est un problème qui me touche scientifiquement. C'est-à-dire... Il faut savoir une chose, c'est que l'atmosphère terrestre, dans le passé, a été une atmosphère qui était à 80% du gaz carbonique. C'est-à-dire que l'atmosphère terrestre était comme celle de Vénus aujourd'hui, c'était du gaz carbonique. Or, ce gaz carbonique, où est-il? Comment a-t-il disparu? Car aujourd'hui, il y en a très peu. On parle beaucoup de l'effet de serre, mais il faut rappeler que la teneur du gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est 380 ppm, c'est-à-dire partie par million, autrement dit 0,03%. Bon. Or, il représentait 80%. Donc, ce gaz carbonique, il a disparu. Où est-il? Alors, la réponse, elle est simple. Il est dans les calcaires. Tous les calcaires que vous avez, la craie qui vous sert à écrire sur un tableau, mais les calcaires, le calcaire du bassin de Paris, etc., c'est l'ancien gaz carbonique qui est dedans. Et si aujourd'hui on détruisait tous les calcaires de la Terre, on refabriquerait une atmosphère avec du CO2. Donc la recherche que nous faisons, c'est comment piéger le gaz carbonique pour fabriquer des calcaires et pour stocker le gaz carbonique. Donc c'est mon approche du problème, c'est réellement un problème qui est lié à de la recherche fondamentale. C'est-à-dire comment... Et si on comprend bien comment se forment ces carbonates, se sont formés ces carbonates anciens, on comprendra aussi comment l'atmosphère a évolué. Ça, c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'idée que recherche fondamentale et recherche appliquée, c'est un continuum. Et il ne faut pas fixer des barrières.
Est-ce que les Américains ont très bien compris?
Oui, mais beaucoup de Français. Mon ami Pierre-Gilles de Gênes, qui est mort il y a 2 ans, étudiait la... comment les polymères glissent sur des matériaux. Et à l'aide de ça, il s'occupait comment faire que vous ayez des lunettes dans lesquelles la pluie ne s'accroche pas. Et donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui font ça. Albert Fert, qui a eu le prix Nobel de physique, qui est un ami aussi très proche, c'est les découvertes qu'il a faites servent à faire des nouvelles mémoires d'ordinateur. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien compris.
Alors, troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Claude Alec, dans votre domaine général d'activité, je ne parle pas simplement de votre activité à vous, dans votre domaine général d'activité, qu'est-ce qui est à vos yeux l'essentiel ?
Non, ce que je viens de vous dire, c'est pour moi l'essentiel, c'est de contribuer en tant que scientifique citoyen à la prise de conscience que les problèmes qui se posent peuvent être résolus par la science. Et donc, pour moi, le problème de l'éducation de la population est le point essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a un intervalle énorme qui est en train, fossé qui est en train de se créer entre la population et la science. Et on utilise la science, on utilise le téléphone mobile, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc quand il y a quelqu'un qui dit « c'est très dangereux », tout le monde dit « ah là là, c'est très dangereux », on ne sait même pas de quoi il s'agit. Par exemple, les antennes relais, on se panique pour les antennes relais, mais si on interdit les antennes relais du téléphone mobile, alors il faut interdire surtout les antennes radio, parce que les antennes des stations de radio sont beaucoup plus puissantes, 100 fois plus puissantes que les antennes téléphoniques. Et donc il faudrait arrêter la radio. Donc je crois qu'il y a un vrai problème. Et vous me parliez du fait de mon passage à l'éducation nationale, où j'ai eu des gros succès dans l'enseignement supérieur, dans les universités, et des grosses difficultés dans l'enseignement secondaire. Mais la difficulté fondamentale que j'ai eue, c'est pour réformer le contenu de l'enseignement. Le contenu aujourd'hui de l'enseignement scientifique, je ne dis pas ça, les professeurs ne sont pas en cause directement, mais l'enseignement scientifique est un échec total. Les élèves sortent du lycée, ne savent rien, ils ne savent pas l'essentiel, ils n'ont pas compris l'essence de la science. Alors, il y a une partie de gens qui s'orientent vers la science, ça c'est bien, et souvent parce qu'ils sont bons en mathématiques. Mais l'autre partie dit « moi, la science, j'y comprends rien ». Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Donc, ce problème d'éducation de la science, c'est quelque chose d'essentiel pour moi.
Mais est-ce que, quand même, vous comprendrez que beaucoup de gens soient un peu désorientés aujourd'hui ? On a l'impression que la communauté scientifique est profondément divisée, quoi, sur des questions comme le climat, l'environnement.
Elle est divisée sur le climat, parce que s'il y a un groupe...
Mais là,
c'est un groupe de scientifiques qui a fait un hold-up et que, pour avoir beaucoup de crédit. Vous savez, c'est une des mauvais côtés de la science.
Non.
Bien sûr que c'est ça. Et il n'y a pas d'autre motivation.
Mais le GIEC là-dedans...
Le GIEC, c'est un petit groupe.
On précise pour les gens, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat.
C'est un petit groupe, le GIEC. C'est un petit groupe...
Vous lui réglez son compte, d'ailleurs, dans votre livre, la méthode de décision du GIEC.
Oui, mais enfin, c'est des méthodes qui ne sont pas bien. Mais vous savez, elles ne sont pas... C'est la même chose... C'est poussé très loin, parce que ça a été très loin, puisqu'il y a des conférences intergouvernementales. Mais vous savez, pendant des années, moi j'ai vu ça, les 15 jours avant le vote du budget de la NASA au Congrès des États-Unis, il y avait une annonce qu'on avait trouvé de la vie sur Mars, ou qu'on avait une évidence de la vie sur la Lune, etc. Puis ça tombait une fois que le budget était voté. Quand vous pensez, par exemple, que le super collider qu'on a fait à Genève et qui est en panne depuis 6 mois, sans qu'on sache bien comment on va le réparer, a coûté 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, comme vous vous doutez, il faut des lobbying considérables pour lever 7 milliards d'euros. Ce n'est pas en allant voir le gouvernement en disant « voilà, il me faut 7 milliards » qu'on le fait. Donc les scientifiques, la physique des énergies, l'espace... Et maintenant, le climat, qui sont des héritiers de l'espace, ils ont pris l'habitude d'être des lobbyistes. Et donc, à partir de là, et moi, je suis très sévère sur le plan moral, pas sur le plan scientifique, ils ont une discipline très difficile, ils n'arrivent pas à prédire le climat, c'est très bien. Mais le problème, surtout, c'est qu'ils surfent sur la peur. Et là, on vient de voir ce que ça a donné sur la grippe H1N1, qui est une grippe qui est beaucoup moins sévère que la grippe ordinaire, jusqu'à maintenant, pour lesquels on prend des précautions. J'ai vu que dans votre ascenseur, il y a des précautions sur la grippe H1N1. Je m'attendais à vous voir avec un masque en train de m'interviewer. Donc, ça veut dire qu'on est dans la peur. Et la science fait peur. On a peur des nucléaires, on a peur de manipuler le vivant, on a peur maintenant des nanotechnologies, on a peur de tout, du progrès. Et ça vient encore une fois, j'y reviens, d'un manque dans l'éducation scientifique.
Alors, l'éducation scientifique, justement, on y pénètre grâce à votre ouvrage, et il y a une question fondamentale qui est posée là, et qui fait peur. C'est l'opposition que vous faites entre le processus démocratique d'une façon générale et la démarche scientifique. Et vous dites, attention, il faut vraiment laisser la science à l'écart d'une démarche démocratique.
Bien sûr, la science est une démocratie retardée. C'est-à-dire que, bien sûr...
La formule de Planck, c'est ça ?
Pardon ?
La formule de Planck ?
Oui, Planck lui disait, on ne convainc jamais personne, il faut attendre que les gens soient morts pour que les nouvelles théories s'imposent. Alors, je ne sais pas s'il faut une génération, mais c'est clair que la science... Réfléchissez un peu. Si tout le monde est d'accord dans ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas découvert quelque chose, puisque si tout le monde est d'accord, c'est quelque chose qui est, c'est une banalité. Si vous découvrez quelque chose, et moi ça a été ça dans toute ma vie, si je ne parle pas du réchauffement climatique, dans toute ma démarche scientifique, et si j'ai eu quelques succès, c'est parce que, en fait, je m'attaquais à des problèmes en ayant un avis contraire à ce que les gens avaient, parce que sinon, ce n'est pas intéressant.
Donc, il faut être déviant ou hérétique, quoi.
Ah ben, oui, il n'y a pas d'autre. Tous les scientifiques sont déviants ou hérétiques. Tous les scientifiques qui trouvent quelque chose. Il y en a un tas qui font les mêmes choses que tout le monde, mais bien sûr, il faut être déviant et hérétique. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes minoritaire, vous avez raison.
Oui.
C'est autre chose. Oui, mais là, il y a un point très important. Très important, qui distingue diverses catégories de gens. Moi, je ne suis pas intéressé par l'opinion. L'opinion de tel ou tel de mes collègues à l'Académie des sciences, ça m'importe très peu. Ce qui m'importe, c'est les arguments. C'est l'argument. Donc, moi, je me base... Pourquoi j'ai critiqué ce que prétendaient les climatologues traditionnels ? C'est parce que leurs arguments me paraissaient scientifiquement très faibles. C'est pas parce que je les aimais pas ou j'avais pas... Si vous voulez, c'est une chose différente. Et naturellement, la démocratie, elle fait confiance à la majorité, d'où la grosse difficulté. Et vous voyez ce qui s'est passé au début du siècle, j'en reparle, avec l'électricité, dans lequel l'Europe ne croyait pas à l'électricité. De la même manière qu'Arago ne croyait pas au train.
À cause des tunnels, c'est ça ?
À cause des tunnels.
Et pourquoi à cause des tunnels ?
Parce qu'ils pensaient que quand que ça rentrerait dans les tunnels, ça ferait des ondes de choc qui seraient terribles pour les gens. Donc, ils ne voulaient pas que les trains... Au début, par exemple, il faut savoir qu'au début des premières voitures, il y a eu des propositions d'hommes politiques pour interdire que les voitures aillent plus vite que le cheval. Parce que la croyance, c'était que la physiologie de l'homme pouvait supporter de galoper à 50 km heure ou 45 km heure, mais que s'il allait plus vite, il aurait des attaques cardiaques, etc. Donc par conséquent, il fallait limiter les automobiles à la vitesse du cheval. Donc aujourd'hui, ça paraît absurde. C'est pas nouveau le fait qu'on ne croit pas à ceci. La France a fait un plan calcul, elle est passée à côté de toutes les grandes découvertes concernant l'informatique. Donc,
elle a joué le gros contre le petit, quoi.
Voilà, oui, par exemple. Et puis surtout, elle a joué le hardware contre le software, alors que la formation des élites françaises, au contraire, aurait pu en faire les champions du software, puisqu'avec toutes ces écoles où on forme des gens en mathématiques très sophistiqués, on aurait pu être les champions du software. Mais je raconte qu'il y a du software qui a été développé en France, par exemple sur l'enseignement des mathématiques, qui a été développé à Grenoble et qui a été commercialisé par Texas Instruments, parce que les Français ne croyaient pas à ça. Les Français croyaient qu'il fallait avoir des belles armoires avec de l'électronique pour faire de l'informatique.
Claude Allègre, une question du dernier invité, membre comme vous de l'Académie des sciences, question qui vous est adressée. Cet invité était Hervé Le Treut, justement spécialiste de la modélisation du climat. Voici la question.
Claude Allègre, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de spécifique dans la manière avec laquelle les géologues, les géophysiciens appréhendent le temps? Est-ce que d'être confronté à des temps très longs, c'est quelque chose qui colore le regard de manière particulière?
La grosse spécificité des sciences de la Terre, c'est qu'il y a diverses échelles de temps qui s'emboîtent les unes dans les autres. Par exemple, la Terre a 4,5 milliards d'années, donc on est dans les milliards d'années, mais un tremblement de terre se déclenche en quelques secondes. Donc une éruption volcanique se déclenche en quelques heures. Les fluctuations climatiques ont lieu sur des centaines de millions d'années, mais aussi sur des dizaines de milliers d'années. Donc il y a toute une série d'échelles de temps qui sont emboîtées et dans lesquelles il faut déchiffrer les choses. Pourquoi ? Ce n'est pas évident ce que je vais vous dire. Parce que la cause n'est pas forcément dans l'échelle de temps de la réponse. Je vous donne un exemple. La cause du tremblement de terre, ce sont les déplacements des plaques tectoniques qui se produisent à l'échelle du million d'années. Et c'est ces déplacements à l'échelle très lente, donc, qui, de temps en temps, donnent des phénomènes extrêmement brutaux. Et donc, c'est très difficile, la réponse, et ça c'est une faute qui est faite très souvent par beaucoup de gens, y compris des spécialistes, de prendre une courbe et d'avoir des variations et de dire, la cause doit être... Non, la cause d'un phénomène peut être d'une échelle de temps complètement différente du phénomène. Et c'est, je crois, par rapport à ce problème, la difficulté essentielle des sciences de la Terre.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissant encore donc les perspectives. Claude Allègre, votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société, qu'est-ce qui, sur ce plan, vous paraît essentiel à dire aujourd'hui ?
La lutte contre la peur. La lutte contre la peur.
On y revient.
Pour moi, c'est le point essentiel, la lutte contre la peur. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, la grande idée à la mode était, pour se débarrasser des déchets nucléaires, de les enfouir à 3000 mètres sous nos pieds. Bien. Je suis à l'origine, pour ce qui est de la France, de l'abandon de ce projet. Ce qui est pour moi, par ailleurs, difficile parce que j'étais à ce moment-là président du Bureau de recherche géologique et minière qui allait être un bénéficiaire financier de cette opération. Mais je considérais que c'était un risque, alors là, considérable, d'enfouir des déchets, de risquer de polluer des nappes phréatiques pour des millions d'années et que donc il ne fallait pas le faire. Donc il fallait stocker en subsurface. Alors, pourquoi les gens voulaient enfouir ça? Eh bien, ils voulaient enfouir ça par peur, parce que le réflexe, c'est on les met en profondeur, on ne les voit plus, on ne s'en occupe plus. Et je pense que cette attitude-là est une attitude qui est une mauvaise attitude. L'attitude, elle est, il y a un danger, les déchets nucléaires sont dangereux. Par conséquent, à mon avis, il faut assumer le danger, c'est-à-dire prendre des précautions et les surveiller. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on fait un enfouissement à faible profondeur avec cette notion qu'on a fait passer à l'Assemblée de réversibilité, qui est qu'on peut aller chercher ces déchets. Imaginez qu'on trouve des nouvelles technologies pour détruire les déchets par des réactions nucléaires. On pourra les rechercher et les détruire. Et deuxièmement, on les surveille. Donc, on sait si ces déchets deviennent dangereux. Si vous êtes en profondeur, vous ne savez plus ce qui se passe, vous ne savez rien. Eh bien, tout ça, ça vous décrit le phénomène qui se propage, qui est la peur. Bien sûr, j'entendais une émission de radio sur les nanotechnologies récemment, et on parlait de ces technologies, des nanotechnologies où on peut vous greffer une micropuce, et à l'aide de ça, on peut savoir où vous êtes. Bon, bien sûr que sur le plan social et moral, c'est inadmissible. Mais ce n'est pas si différent que le problème du couteau, le fameux problème, le couteau, et s'il sert à couper la viande ou il sert à attaquer quelqu'un. toute la science, chaque fois que vous fabriquez des bombes atomiques et vous fabriquez des centrales nucléaires, chaque fois que vous avez un progrès scientifique, il y a des dangers. Mais précisément, la philosophie qui a été celle de très courageuse de nos ancêtres a été d'affronter ces dangers. Aujourd'hui, avec la propagande qu'il y a, pensez quand même que là c'était pas Arago, les locomotives explosaient. Les locomotives à charbon explosaient parce que c'était mal. Donc il y avait des explosions, il y avait des morts. Les avions, bon, vous le savez, tombaient et il y avait des morts. Bon, mais on a continué. On a continué à fabriquer des trains et à fabriquer des avions. On ne s'est pas arrêté.
Donc le risque zéro, c'est la plus grande imbécilité d'un point de vue scientifique.
Absolument. Absolument. Ça n'existe pas. Je vais être encore plus cru que vous. Moi, j'ai écrit un article, Principe de précaution, piège à con. Donc. Cette espèce de propagation de la peur est une calamité de notre... Et aujourd'hui, et c'est le fond de mon livre, parce que la fin de mon livre, elle est là, c'est de dire, attention, parce que les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Japonais, ils s'en moquent de ça. Ils ne considèrent pas ça, ils avancent. Et si vous avancez pas, eh bien, dans ce monde, qui est dans cette société qui est mondialisée, eh bien, vous reculerez.
Alors vous, vous dites une chose tout à fait étonnante, vous craignez la conjonction d'une sorte d'intégrisme vert, le mot n'est pas dans le livre, hein, vous l'avez employé ailleurs, et des grands courants philosophiques et religieux.
Pas philosophiques, religieux.
Religieux. La conjonction des écologistes
Absolument.
Et d'une partie des religions.
Oui, parce que ils se rejoignent d'ailleurs, vous avez eu une déclaration des écologistes et des évêques de France contre les OGM, il y a quelques années, qui se ressemblaient énormément. Mais pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, on touche des problèmes comme la vie, la planète. Alors, il y a des églises dans lesquelles qui ont, dans leur croyance, une évolution. Par exemple, la religion juive, elle permet d'adapter toute la science, puisqu'elle considère que le Talmud, c'est un récit allégorique. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre dans l'allégorie ce que vous voulez. La religion chrétienne est beaucoup plus figée, et notamment la religion catholique est beaucoup plus figée encore que la religion catholique. Elle pourrait évoluer, elle pourrait décider qu'elle évolue, mais c'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas jusqu'où elle peut évoluer. Quand vous voyez, par exemple, la lutte du pape contre le préservatif, moi je ne vois pas bien ce que ça change à la foi chrétienne d'utiliser des préservatifs. C'est quelque chose qui est vraiment de l'intégrisme. Le problème de savoir l'embryon qui a 4 cellules, 8 cellules, est-ce que c'est un homme ou pas? Les musulmans disent non, mais les catholiques disent oui, donc vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc là aussi, il y a un défi absolument considérable qui est la science est en train de poser des questions considérables aux religions. Et donc ces religions, elles ne pourront pas survivre si elles n'évoluent pas. Je pense que c'est une nécessité, mais elles vont être des obstacles. Alors que ces pays, alors je ne parle pas de l'Inde qui a une religion mais très compliquée, la Chine, le Japon, la Corée, c'est tout ça, il n'y a pas de religion qui s'oppose, il n'y a pas de grande vérité, il n'y a pas de choses comme ça. Et par conséquent, ils n'auront pas ces obstacles-là.
Claude Alec, 5e question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
De prétendre que les pays développés aident les pays sous-développés à se développer. Je pense que ça, c'est les discours. Mais en fait, on ne les aide pas. Je pense que le monde continue à être basé sur des déséquilibres terribles. Et je crois que c'est une grande naïveté. J'entends parler de gens, il faut un gouvernement du monde, etc. Je pense que c'est totalement irréaliste. Et je pense qu'il y a une grande hypocrisie. Tout le monde cherche à exploiter les autres, c'est tout. Il faut bien. Aujourd'hui, si la Chine va en Afrique pour avoir des matières premières, elle achète des terrains pour pouvoir cultiver plus commodément tel ou tel produit. Et nous ne faisons pas autrement. Quand vous voyez que l'aide au développement, en fait, ça a rapporté plus d'argent aux pays industrialisés qu'ils n'en ont donné, c'est quand même un truc incroyable. Néanmoins, les chiffres sont là. Le remboursement de la dette, vous avez des pays dans lesquels le remboursement de la dette est supérieur à ce qu'on leur donne en subvention. Donc, C'est la plus grande hypocrisie, c'est de faire croire qu'il y a une fraternité mondiale, etc. C'est totalement faux. On continue à être dans des égoïsmes extraordinaires par-delà les discours. Vous le voyez, venons-en au réchauffement climatique. Vous le voyez aujourd'hui, il va y avoir Copenhague. Moi, je ne suis pas pour les dégagements de CO2 pour d'autres raisons, pour les raisons de l'acidification de l'océan. Mais les pays du tiers-monde disent, nous, on ne veut pas payer. Il faut que ce soit les pays développés. C'est vous qui avez pollué, donc c'est à vous de payer. Bon. Sommet européen. Oui, on est d'accord, c'est à nous de payer. Bon. Combien ? Bon. Puis finalement, on commence à parler chiffres. C'est 1/100 de ce qu'il faudrait pour aider les pays du tiers-monde. Bon. Et comme quelqu'un dit, non, vous n'allez pas leur proposer ça, c'est pas possible, il faut... Bon, et finalement, on se quitte au sommet européen sans aucun chiffre. Donc l'Europe ne va rien faire, c'est clair. Les États-Unis ne feront rien non plus. La Chine continuera à fonctionner comme elle a envie. On fera des discours, etc. Aujourd'hui, l'écologie, précisément, je reviens là-dessus, c'est des discours. Ce n'est pas des actions, c'est des discours. Et donc c'est une hypocrisie totale de croire qu'on aide les pays sous-développés. Ce n'est pas vrai.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Claude Alleg, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Les progrès dans la guérison des maladies génétiques. Je pense qu'on va guérir beaucoup de maladies génétiques et puis des maladies comme le cancer, des maladies comme la maladie d'Alzheimer, les maladies comme la maladie de Parkinson. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de progrès qui sont faits, il y a énormément de progrès à attendre. Je pense que ce secteur va être un secteur formidable, oui. Ça, c'est le grand espoir, ça.
Septième et dernière question récurrente de cette série, L'Essentiel, une question plus personnelle. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Oh, c'est difficile. Ma motivation, c'est de continuer à faire de la science, à apprendre, à découvrir de temps en temps un petit peu des choses, et puis à lutter contre l'irrationnel, contre la peur, contre ce que je vous ai dit. Je vais tourner toujours autour de la même chose. Vous me posez une question, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Je pense que de la position où je suis, à l'âge où je suis, je pense que mon rôle, c'est d'essayer de contribuer à laisser à mes enfants et à mes petits-enfants un monde aussi optimiste que celui qu'a laissé nos parents. Et je crois que c'est possible. Et c'est ça ma grande différence avec les écologistes. Je pense que tous ces problèmes qui se posent à la planète sont des opportunités formidables de développement, d'innovation, d'invention de nouvelles manières de faire. Vous voyez, moi je crois que dans 20 ans ou 30 ans, l'électricité, vous n'aurez plus à vous brancher sur le réseau. Vous fabriquerez votre électricité sur le toit, vous la stockerez. Vous serez autonome au point de vue énergétique. Chaque immeuble, chaque maison sera... Et par conséquent, vous aurez une nouvelle organisation avec plus d'indépendance, plus d'initiative. Je pense qu'on va aborder un monde extraordinairement intéressant. Et l'homme, moi, j'ai une grande confiance dans la capacité à imaginer, dans la capacité à se mobiliser, etc. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais les seules manifestations que nous avons du changement climatique, il y a un changement climatique, mais les seules manifestations très claires, c'est la fusion du Groenland et de l'Arctique. C'est ça qui est le plus important. Bon, soyons clairs, ça menace des ours blancs, bon, mais pas grand-chose d'autre. Et en plus, si vous regardez les statistiques des ours blancs, ça c'est un paradoxe, au Canada, ils ont augmenté de 50% en 10 ans. Donc, ils ne sont pas vraiment menacés. Et les endroits où ils sont menacés, c'est parce qu'on tire dessus. Donc, est-ce que le réchauffement, même s'il existait, serait dangereux pour l'homme ? J'ai des collègues qui pensent exactement le contraire. Ils pensent que si on a des hivers un peu plus doux, on dépensera moins en chauffage. S'il y a un peu plus de CO2, les plantes produiront plus de feuilles vertes et par conséquent, pour la nourriture du monde, ça sera bien. Et donc, finalement, ce n'est pas une catastrophe comme ça l'est.
Vous avez publié en 2005 un livre intitulé « Dictionnaire amoureux de la science ». Est-ce qu'on peut dire que la science est le grand amour de votre vie ?
Ah oui, sans aucune restriction, bien sûr, oui. Oui, vous savez, un de mes collègues de l'Académie, qui est un peu plus âgé que moi et qui s'appelle Anatole Abraham, que vous connaissez peut-être, il a écrit un livre, lui, sur sa vie et il appelait « De la science avant toute chose ». Ben, j'aurais pu signer le même titre. Oui, bien sûr, la science représente la priorité de ma vie. Et je crois qu'il ne se passe pas de journée dans laquelle je ne fasse pas un peu de science.
Claude Allègre, merci. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier chez Plon, « La science est le défi du 21e siècle », un livre dont on peut raisonnablement penser qu'il restera comme l'un des 10 principaux essais de l'année 2009. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.